This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Il est toujours difficile de parler d'une année et d'en rendre compte, fût-ce avec des extraits de documents ou de musique. L'année 1960 est une année particulière. Elle est particulière parce qu'elle est celle de changements considérables tant dans les sociétés, dans les modes de vie, que dans la musique, et le jazz est là pour en témoigner. 1960, c'est un véritable tournant. Alors en matière politique, on s'aperçoit que tous ceux qui sont au pouvoir et qui sont issus de la Deuxième Guerre mondiale, notamment le président des États-Unis, Dwight Eisenhower, ces gens-là vont s'effacer au cours de l'année 1960. Et peu à peu, une nouvelle génération d'hommes politiques va surgir, à l'exception de la France, puisqu'en France, le général de Gaulle va rester, lui, au pouvoir encore très longtemps. Cette nouvelle génération va utiliser de nouveaux moyens de communication et c'est ce qui va surprendre. Les gens sont plus jeunes, ils sont plus dynamiques, en tout cas en apparence, et peu à peu, ils vont utiliser les nouveaux moyens, c'est-à-dire la radio, bien sûr, mais aussi la télévision qui commence à être un outil de communication très important. Aux États-Unis, particulièrement, la nouvelle élection qui se profile à la fin de l'année 1960 va, tout au long de la préparation des élections, va mobiliser les télévisions et les face-à-face vont se succéder entre les deux candidats, en l'occurrence Richard Nixon et le futur président Kennedy. Alors, si je dis que le jazz en témoigne lui aussi de ces changements, eh bien, c'est que toute cette semaine, les 5 épisodes de ce feuilleton ne seront pas inutiles pour montrer à quel point, en 60, eh bien, le tout change. Alors bien sûr, tout change. On ne va pas voir disparaître tous les musiciens de jazz qui jouent et qui sont matures cette année-là. Mais quelque chose va changer dans la façon de jouer des nouveaux venus. Alors, de nouveaux venus ou bien de gens qui vont changer leur façon, leur approche de cette musique. La personnalité qui va changer son approche de cette musique, c'est John Coltrane. Et donc, tout au long de cette semaine, nous aurons des extraits qui nous montreront comment ce musicien d'exception, probablement le plus grand génie que le jazz ait produit, avec Miles Davis, mais avec un petit plus peut-être, comment cet homme s'est littéralement incarné dans sa musique, au point qu'il s'est brûlé les ailes et au point qu'il l'a conduite vers des chemins dont peut-être cette musique n'est jamais revenue, en tout cas à mon sens. Il est l'un des créateurs de ce que l'on appellera ensuite le free jazz. Ce courant aujourd'hui est, en tant que courant, totalement disparu. Il a probablement introduit dans cette musique des questions, des interrogations, la perte de tout un public. Et il est peut-être, ce courant-là en tout cas, il est peut-être le fossoyeur de cette musique qui était née avec le siècle. Alors cette année-là, en dehors de la musique, eh bien, il y a un événement qui va se passer. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre froide. Et que donc, même si la guerre mondiale a cessé, eh bien, entre les États-Unis et l'Union soviétique, ce n'est pas vraiment l'amour fou. Le 5 mai 1960, le secrétaire général de l'Union soviétique, donc de l'URSS, annonce qu'un avion américain a été abattu au-dessus du territoire soviétique. Réponse le lendemain de la part des États-Unis. Washington affirme qu'il s'agit d'un avion météorologique égaré. Le 7 mai, surlendemain, Moscou annonce qu'elle détient le pilote. Il s'agit du dénommé Gary Powers. et qu'il a reconnu avoir été chargé d'une mission d'espionnage sur un appareil spécialement conçu, l'U2. Alors ce sera la grande affaire de l'U2, les The U2. Durant tout le mois de mai, il va y avoir une série d'échanges entre les Soviétiques et les Américains. Finalement, après avoir nié, le président américain va reconnaître qu'effectivement, il a autorisé lui-même ces vols depuis 1956 et qu'il se refuse à les arrêter. Alors devant la réaction internationale, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une réunion qui est prévue des quatre, en l'occurrence les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et la France, à Paris. Eh bien, Eisenhower, annonce à Paris, annonce officiellement que le survol du territoire russe par les U2 est donc suspendu. Il fait marche arrière. Mais ça ne suffit pas. Le secrétaire général russe, Nikita Khrouchtchev, donc, lorsqu'il arrive le 14 mai à la conférence au sommet des quatre grandes puissances, demande de plus. Il demande des excuses publiques. Auquel cas, évidemment, le président Eisenhower refuse. Et donc, Khrouchtchev se lève, sort et boycotte la conférence de Paris. Et c'est ainsi que s'accélèrent les mouvements d'opposition entre l'ancien monde et le nouveau monde, pourrait-on dire, entre ce qui s'est un peu le résultat de la glaciation à l'est s'oppose à l'ouest. Il est une autre affaire qui va défrayer la chronique, c'est les relations avec Cuba. Jusqu'à présent, tout va tant bien que mal, mais les choses vont aller en empirant. Et c'est ainsi que le 4 février 1960, la révolution cubaine se rapproche de l'Union soviétique et rompt totalement avec les États-Unis. Fidel Castro réclame aux États-Unis une assistance économique exorbitante de 30 milliards de dollars qui, bien évidemment, lui est refusée. Il se tourne alors vers l'URSS qui lui accorde une aide de 100 millions de dollars et promet d'acheter 4 millions de tonnes de sucre par an puisque la canne à sucre est la production massive que produit le Cuba à ce moment-là. Et Cuba vit de cette production d'ailleurs. Et donc les relations diplomatiques entre l'Union soviétique et Cuba vont s'intensifier au point que Cuba va pouvoir acheter du pétrole russe au meilleur prix que celui du Venezuela qui lui s'est rapproché entre-temps des États-Unis. Mais bon, peu à peu, le fossé se creuse et donc on va arriver à une situation proche de ce qu'elle était il y a quelques mois avant que ne se réchauffent à nouveau les rapports entre Cuba et les États-Unis. Pour montrer à quel point les rapports étaient tendus, eh bien, les États-Unis, au Guatemala précisément, installent et organisent un camp d'intervention où les services secrets américains vont donc pouvoir entraîner des gens et pour envisager dans le futur une intervention à Cuba. On sait que cette intervention aura lieu, mais ce sera un échec. Ce sera le fameux débarquement de la baie des cochons. Donc on voit par là que le président Eisenhower subit de nombreux échecs au plan international et au plan intérieur, ça ne va guère mieux. Mais tout est sur le point de changer puisque donc la campagne électorale bat son plein, les deux candidats s'opposent et peu à peu va se dégager une personnalité. Et donc on va assister à l'élection du 35e ou 37e président des États-Unis.
Kennedy n'a que 43 ans, il est sénateur depuis 1947, il est catholique. Ce qui fait dire à certains de ses détracteurs que les États-Unis, traditionnellement protestants, tomberaient sous le contrôle du Vatican.
When I first saw you, with your smile so tender.
Il est très agressif, ce qui est ici une qualité. Il a la voix acide et le débit rapide.
Fly me to the moon.
Ici Gérard Alcan à Los Angeles.
What is the most important issue confronting the American people in this election campaign? There's no question about the answer that I have found in traveling all over this nation. Above everything else, the American people want leaders who will keep the peace without surrender for America and the world.
Vote for Nixon and Lodge, November 8th.
Depuis l'ouverture de cette campagne, les deux candidats ont déployé une activité record, une activité jamais égalée encore dans une campagne pour la présidence.
Good evening. The television and radio stations of the United States and their...
La télévision, bien sûr, est utilisée au maximum. Et sur n'importe laquelle des quatre chaînes de Washington, Dick Nixon et John Kennedy se répondent inlassablement.
Aujourd'hui, c'est le jour des élections américaines, le savez-vous?
Oui, bien sûr.
Quels sont les deux candidats en présence?
Kennedy et Nixon.
Lequel souhaitez-vous voir passer?
Kennedy.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il est beau garçon et démocrate, paraît-il.
À l'heure où vous déjeunez, l'eau se lève à peine sur la partie est des États-Unis et les bureaux de vote ouvrent leurs portes. Ce sera, et c'est la seule certitude que l'on ait, l'un des plus jeunes présidents que les États-Unis aient jamais connu. Ici Maurice Lemay qui vous parle de Washington, Europe numéro 1.
Le suspense de cette bataille électorale n'a pas été à la mesure de ce qu'on attendait. Monsieur Kennedy a peu à peu pris l'avantage sur Monsieur Nixon et a accru son avance lentement, mais sûrement et continuellement.
Le président Kennedy s'avance pour prêter serment.
Hi, John Fitzgerald Kennedy.
C'est exactement 12h53 minutes. John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis. Ici Maurice Lemay qui vous parle de Washington, Europe numéro 1.
Voilà, petit montage des échos de la campagne américaine en France, notamment autour de la radio qui est dite périphérique à l'époque, Europe 1, qui était située à l'extérieur du territoire français, mais qui avait ses studios en France. Cette époque-là, je vous parle d'un temps, du temps que l'on dit être celui de l'ORTF, à l'époque où l'éclatement du service public n'avait pas eu lieu et où de quelques radios privées pouvaient émettre à partir de l'extérieur du territoire. Europe 1 était un peu la chaîne d'information continue de ces années-là, des années 60, avec vraiment une efficacité tout à fait redoutable. Donc, voilà un président qui s'avance. Il est, on nous le dit, le plus jeune président des États-Unis et ce n'est pas totalement innocent parce qu'en fait, voilà quelqu'un qui s'est fait élire sur sa jeunesse. Il s'est fait élire sur une sorte de légende. Une vraie légende, parce qu'on dit qu'il a été le capitaine d'une corvette qui a œuvré dans la guerre du Vietnam et que donc il a été blessé, que c'est donc un vaillant guerrier qui est revenu au pays et qui donc peu à peu s'est intéressé à la politique. En réalité, même si ce n'est pas faux, la légende n'est pas tout à fait celle-là. En réalité, c'est son père, Joseph Kennedy, qui est le leader d'une dynastie installée aux États-Unis, d'ailleurs dans le cadre d'une immigration plus ou moins légale et qui avait des accointances avec la mafia. Qui a donc décidé que l'un de ses fils, en l'occurrence John Fitzgerald, serait président des États-Unis. Et donc, il va mettre tout en œuvre pour que celui-ci acquiert une espèce d'image idéale, magnifique, pour le devenir. En réalité, c'est un homme qui est malade, qui a des problèmes de dos absolument terribles, qui ne peut supporter la station debout que quelques heures, qui a énormément de mal à se concentrer sur son travail à la Maison-Blanche. Donc c'est un président qui est élu sur une image de jeunesse, de santé, qui a une femme française, d'origine française merveilleuse, etc. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que c'est un homme diminué, qui souffre terriblement, qui a déjà des problèmes de conjugaux avec son épouse, puisqu'on connaît l'épisode avec Marilyn Monroe, mais bon, il y en aura beaucoup d'autres. C'est donc un homme moderne qui incarne le renouveau et en réalité, on est loin du compte. Donc, au fond, voilà un président qui est élu sur mensonge total. Et c'est, en ce sens, c'est nouveau, puisque auparavant, dans tous les pays occidentaux développés, démocratiques, les gens sont élus sur des programmes, sur des idées. Alors, ils les appliquent ou ils ne les appliquent pas, certes. Mais c'est ce qui fait la différence. Là, non. D'ailleurs, quand on reprend les face-à-face, Nixon, et c'est le paradoxe, le républicain, l'homme de droite, en apparence, même s'il l'est à certains égards, c'est lui qui avance des idées, des programmes, et Kennedy qui lui répond non, on verra ça quand on y sera. Il faut voir les choses autrement, mais sans jamais entrer dans le détail de ce qu'il propose. Et c'est ainsi que c'est l'avènement de la politique communication et de l'image en cette matière, et ça commence par les États-Unis comme souvent. Je vous rappelle que, pour ce qui concerne la France, un de nos derniers présidents, on l'appelait l'Américain. Cherchez de qui il s'agit. Donc, voilà un pays qui est au tournant de son système de gouvernance, et c'est aussi ce pays qui est au tournant d'une musique qui est la musique métissée par excellence, puisque avec des origines africaines, des origines européennes, des origines indiennes même, par certains égards, cette musique s'appelle le jazz. Et le jazz, il a déjà subi plusieurs périodes. Il y a eu le New Orleans, il y a eu le jazz dit classique ou le jazz des grandes formations, puis au moment de la guerre, le bebop qui chamboule considérablement les formes traditionnelles de cette musique. Et là, en 1960, il va se passer quelque chose. Deux ou trois musiciens vont publier des albums en rupture complète avec ce qui se fait à ce moment-là. Mais il y en a un qui est une sorte de chaînon qui fait le lien entre l'ancien et le nouveau, c'est John Coltrane. Et John Coltrane, fin 1959, réunit un quartet. Jusqu'à présent, il joue avec les autres, notamment avec Miles Davis. Là, il réunit quatre musiciens qu'il installe dans un studio et ils enregistrent quelque chose qui devrait s'appeler Giant Steps. En réalité, John Coltrane n'est pas satisfait de cet enregistrement et donc l'album va quand même sortir. Il va sortir début 1960. Mais n'étant pas satisfait, il va reprendre les choses, changer la distribution des musiciens. Et au mois de mai, il va à nouveau entrer en studio et il va enregistrer pour Atlantic, avec qui il vient de signer, marque de disque qui joue un rôle très important dans sa musique. Il va enregistrer pour Atlantic donc un nouveau Giant Steps qui sera ce qui va véritablement changer son approche du jazz. Je vous propose d'écouter le titre éponyme de l'album, Giant Steps. We'll be right back. enregistré donc le 4 et 5 mai 1959, mais encore une fois, l'album ne paraîtra qu'en 1960, Giant Steps, qui est probablement l'album qui fait charnière entre l'ancien Coltrane et le nouveau. Alors, pas de changement révolutionnaire, simplement, enfin révolutionnaire si, un peu, simplement, c'est sa musique. Alors, il y a cette pulsion qui est absolument constante dans tout cet album, dans toutes ses compositions, même dans les rythmes lents. Ce dialogue permanent avec le pianiste, il n'a pas encore trouvé son alter ego que sera McCoy Tyner, ni le batteur avec qui s'épanouira la personnalité de Coltrane, en l'occurrence Elvin Jones, mais il y a quand même le bassiste, son complice Paul Chambers, qui là joue très très près du saxophoniste, et donc qui le stimule et le relance en permanence. Alors au piano, c'est Tommy Flanagan. Tommy Flanagan, c'est quelqu'un qui on ne peut pas dire qu'il marque la nouvelle musique, au contraire. Et puis un batteur qui va enregistrer plusieurs fois avec Coltrane et avec beaucoup d'autres musiciens de cette même génération, il s'agit de Art Taylor. Je vais écouter maintenant un extrait de ce même album. C'est une version de Naïma. Naïma, c'est la fille de John Coltrane, mais qui avait été enregistrée avant ses sessions. Okay. Donc John Coltrane était très attaché à cet enregistrement. Et il est accompagné par Wynton Kelly au piano, Paul Chambers à la contrebasse et Jimmy Cobb à la batterie. Une très belle ballade composée par John Coltrane. Thank you. Voilà, la merveilleuse ballade composée par John Coltrane, interprétée par lui-même, bien entendu. Un musicien qui a encore les pieds dans la mélodie, qui a encore une espèce de goût pour la forme bien établie, bien aboutie, avant que ne se déchaîne la fureur de son jeu dans les albums qui vont suivre. Mais ceci, bien entendu, est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.